Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Merci. Nous allons ouvrir une ou deux pages de notre Bible, et peut-être plus d'ailleurs. Mais j'aimerais justement que nous nous entretenions sur le sens, la signification dans notre monde d'aujourd'hui de ce qu'est le christianisme enseigné dans l'Évangile. Alors c'est une réflexion qui peut être, ça sera jamais une découverte, mais c'est surtout une mise en application, parce que nous le savons tout ça. Mais entre le savoir, le connaître, avoir la connaissance et le vivre, eh bien c'est peut-être un peu différent et j'aimerais rappeler quelques principes. La première chose, c'est une question qui est posée par une femme que nous connaissons bien, que nous avons rencontrée à plusieurs reprises dans la Bible. Alors cette femme, c'est une païenne qui va devenir chrétienne et elle s'appelle la Samaritaine. Et cette femme, eh bien, veut savoir ce qu'il en est exactement entre la conception d'une croyance et la foi en Jésus-Christ. Nous allons commencer par Jean chapitre 4. Alors, pour les biblistes, et vous l'êtes, eh bien, ce sont des choses qui sont connues, mais je voudrais rappeler. Donc, Jean chapitre 4, verset 20, s'il vous plaît. Cette femme, à un moment donné, en écoutant Jésus, en voyant Jésus, surtout en l'écoutant, va s'exclamer en disant tout simplement, eh bien, je vois que tu es prophète. Jésus est plus qu'un prophète, hein, on le sait. Et elle poursuivra, mais nos pères, les Samaritains, les païens, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà, ça c'est une nouvelle. Hein. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est étrange. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce sont là des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Nous allons continuer notre lecture, et dans quelque chose de patent, de flagrant, de ce que peut être finalement eh bien le monde qui adore ce qu'il ne connaît pas, qui a toutes sortes de pratiques religieuses, de dévotions, de traditions, de rythmes, de sacrifices, mais il ne le connaît pas, Jésus le dit, hein, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que nous adorons ce que nous ne connaissons pas? Alors on va le vérifier tout de suite. Samaritaine, autre situation dans la Bible, c'est dans le livre des Actes, encore des païens, mais les païens découvrent l'Évangile, hein, enfin s'ils le veulent. Et nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, et le verset 23, on va commencer à partir du verset 23, ou 22 si vous voulez. Enfin quand je vous dis si vous voulez, mais vous êtes obligé de vouloir. Enfin, je vous laisse pas le choix. Enfin, je dis ça avec le sourire. Hein. Ne le prenez pas mal. Alors, Actes chapitre 17, verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, vous avez deviné où ça se trouve. Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville, et en considérant les objets de votre dévotion, de votre croyance, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, un dieu inconnu. Ça, c'est quand même quelque chose. Un dieu inconnu. Et il ajoute, comme Jésus à la Samaritaine, « Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang ou d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire, c'est important ça, que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme, Jésus, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, la chose la plus extraordinaire qui n'est jamais arrivée dans l'histoire du monde, en le ressuscitant des morts. Voilà. Par Jésus ressuscité des morts. Je reprends un passage du livre du prophète Ésaïe que vous connaissez aussi bien. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Nécessité d'une connaissance éclairée et inspirée par le Saint-Esprit. Or, la parole de Dieu est une parole inspirée par l'Esprit de Dieu. C'est pas seulement un livre de littérature historique, de poèmes, enfin tout ce que vous voudrez. Mais Dieu dira, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas vos voix. Il y a beaucoup de gens qui se croient dans la vérité, qui sont sincères dans leurs erreurs, mais qui, quelque part, méconnaissent le message salvateur, le message de Jésus. Et c'était le cas des Athéniens. C'était le cas de la Samaritaine. La Samaritaine a cru, elle est devenue une disciple de Jésus, il faut le croire. Et pas seulement elle, parce que quand on en a parlé dans tout son visage, les gens sont venus voir Jésus. Et nous avons cru, non pas en ce que cet homme nous a dit, mais nous croyons parce que nous l'avons vu et nous l'avons entendu. Ça, c'est formidable. Une évangélisation extraordinaire. Quant aux Athéniens, c'est une autre affaire, parce que quand Paul a annoncé l'évangile à Athènes, ça s'est pas passé de cette manière. Parce que quand il était question de Jésus ressuscité, Anastasia ou Anastasie, tout simplement Anastasia, ça a été une confusion pour les Grecs avec une déesse, finalement, de la mythologie grecque, qui se faisait passer tout simplement, pour quelqu'un qui était l'idée très vague et très confuse d'une résurrection. Mais Jésus, par l'homme qu'il a choisi, Jésus, on le ressuscitant des morts, et c'est une preuve. Et c'est pour ça que, quand on lit la suite, mais je ne vais pas la lire parce que il y a beaucoup de choses à dire ce matin, mais une chose qui est certaine, c'est que les gens, ils n'ont pas cru. Il y en a eu quelques-uns à Athènes, parce que un dieu inconnu pour eux, c'était tout simplement la déesse Anastasia, tout simplement. Voilà. Enfin, c'est ceci dit. Mais je pense qu'il est important ce matin, sur un fait particulier, c'est que nous allons un mot que vous connaissez, parce qu'il y a une vingtaine d'années, on en a beaucoup parlé dans les médias, c'est le mot traçabilité. Ah, vous voyez ce que je veux dire, La traçabilité, aujourd'hui, on n'a que ce mot pour dire tout ce qui est, soit alimentaire ou autre chose. Traçabilité. Et c'est intéressant de voir qu'il y a deux mondes. Il y a un monde qui est convaincu dans sa sincérité de ses religions, de sa dévotion, etc., et qui se dit, mais c'est nous la vérité. Et puis il y a l'autre, de ceux qui sont nés de nouveau, qui se sont repentis, qui ont cru, et qui ont accepté le sacrifice de Jésus, et qui croient à la résurrection de Jésus, un Dieu vivant. Parce qu'autrement, ce sont des dieux morts, qu'ils s'imaginent qu'ils sont vivants, tout ce qu'ils peuvent faire, prier, jeûner, tout ce que vous voulez, ça sert à rien. Ça sert à rien, puisque finalement, ça, c'est une forme d'idolâtrie, de culte occulte. Et l'histoire dans la Bible, puisqu'on parle de traçabilité, faut aller au départ, à l'origine, à la Genèse. Et l'histoire commence à petits pas. Vous allez voir que nous allons parcourir toute la Bible, Vous avez le temps? Jusqu'à vendredi prochain, ça va? Pour ceux qui sont en vacances, ça pose pas de problème, mais voilà. Nous allons voir que ça commence tout petit. Cette découverte, même dans les peuples païens, et pour nous, ça a été certainement notre cheminement, que petit à petit, la lumière a jailli, de plus en plus elle s'est ouverte pour devenir un éclat, pour devenir une véritable splendeur. C'est, on pourrait dire avec ce mot italien, crescendo. Et pour devenir l'apothéose. Et moi je dis qu'à partir de la Genèse, le livre de l'Ancien Testament. Et quand nous arrivons à un Nouveau Testament avec la révélation de Jésus-Christ, c'est l'apothéose. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il est le reflet, il est la personne, l'empreinte et la gloire de la divinité, de Dieu. Ça commençait par des petits soupçons de lumière et de vérité qui sont apparus dès le livre de la Genèse, parce qu'on s'aperçoit que les patriarches ont commencé, avec un sentiment qui est né dans leur cœur, à offrir sur un autel de pierre, eh bien, les premiers sacrifices. Pas celui de Caïn, celui d'Abel reste naturellement, eh bien, le type même de l'offrande du culte spirituel. Donc, les autels des patriarches, les tout premiers, naturellement. Il y a eu un homme qui s'appelait Enoch. Je parle pas d'Enoch, hein, mais je parle d'Enoch. Et Enoch, ça veut dire mortel. Peut-être ce sentiment d'immortalité au fond de son cœur. Et il y dit cette petite phrase, c'est alors à ce moment-là du temps d'Enoch, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Très primaire, très... Il y a beaucoup d'ignorance. Mais à partir de ce moment-là, eh bien déjà, Dieu avait mis son plan en route. Autel de pierre, un autel rudimentaire, une pierre, un peu d'huile, un sacrifice, et puis voilà. C'est ainsi que les choses commencent. Puis vient ensuite le temps de la tente d'assignation. Il s'est passé beaucoup de temps, hein. Je voudrais vous le dire parce qu'on va aller vraiment en diagonale et on va aller très vite. Mais puis ensuite le temps de la tente d'assignation. Et au cœur de la tente d'assignation, il y avait l'arche de l'Alliance. Quelque chose de constitué, quelque chose qui avait une signification pour les Hébreux. Quelque chose qui avait un sens parce que Dieu avait parlé de faire. Et c'était la présence matérialisée à travers cette arche. Avec naturellement la volonté de Dieu exprimée, vous savez, hein, l'arche contenait eh bien les tables. Et nous voyons qu'à ce moment-là, eh bien, cette symbolique ou cette représentation, ce lieu d'adoration ou ce lieu de culte, était dans le désert. Voilà, il s'est promené cette arche, ses premiers le temple d'assignation, s'est promené, monté, démonté, remonté, etc. Mais certainement des centaines et si c'est pas des milliers de fois. Et c'était tout simplement eh bien, l'image d'un temple éphémère, d'un temple mobile. C'était de la toile. Alors il y avait la grosse pierre, ensuite maintenant nous arrivons à la toile, et puis apparaît le temple de Jérusalem, ou les temples de Jérusalem, je le mets au pluriel, parce que quand on connaît l'histoire que je vais vous rappeler brièvement, vous allez voir que ça c'était comme la tente d'assignation, hein, montée, démontée, etc., etc. On pense à Salomon. Parce que c'est lui qui a eu l'honneur de construire, sous la directive de Dieu, eh bien, le temple splendide de Jérusalem. Ensuite, il y a eu Zorobabel, il y a eu Hérode, qui en a voulu faire une gloire nationale, mais pour lui, hein, c'était pas pour de pouvoir dire, eh bien voilà, à Jérusalem, il y a le temple de notre Dieu, mais on sait qu'Hérode, il n'avait rien à faire de Dieu. Hein. Ça, c'est sûr, c'est un méchant, un cruel et un despote. Hein. Et ce temple-là, temple de Jérusalem, il a été construit. Donc, on l'a dit par Salomon. Il a été détruit par les étrangers, les nations étrangères, Babylone. Il a été rebâti du temps de Zorobabel. Il a été battu. Et puis, en l'an 70, il a été réduit en poudre. Plus rien du tout, plus aucune signification. Et si vous allez à Jérusalem, vous verrez qu'un mur, ce qu'on appelle le mur des lamentations. C'est pas le mur de la joie, hein. C'est pas le mur du triomphe, c'est le mur des lamentations. Faut bien le comprendre, tout ça. Et on est passé dans cette progression de la splendeur de ce premier temple, de ce deuxième, etc., de ce troisième du temps d'Hérode, à la déchéance. À la déchéance. Et Dieu avait dit à Salomon, c'est là où je ferai résider mon nom. C'est là où j'habiterai. Et on voit que ça se termine par une déchéance. Par de la poussière, finalement, du temps de l'Empire romain, naturellement, hein. Splendeur à la déchéance. Et Dieu l'a permis. C'était une volonté permissive que le temple soit détruit. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui pleurent pour que le temple se reconstruit. Hein. Ils attendent, enfin particulièrement dans le monde hein, des Juifs. Et ça, c'est l'image des temples matériels. Matériels, des temples, donc, de cette manière. Des pierres, de la toile, des murs, enfin même s'il y a de l'or et de l'argent, parce que dans les temples de Salomon et puis de ceux qui l'ont reconstruit ou rebâti, c'était de l'or, comme nous pouvons le voir dans nos splendeurs architecturales, de nos églises, de nos basiliques, de nos mosquées, enfin, de tous ces lieux somptueux que les hommes se donnent et qui ont une signification et une identification à la religion, à la croyance des hommes. C'est ça ce que je veux dire particulièrement, la croyance des hommes. Donc, temple matériel. Mais maintenant, nous allons parler du temple spirituel. Ah, où est-il ? Jérusalem ? Il est sur le mont Garizim, comme la Samaritaine le disait ? Nos pères nous ont enseigné qu'il fallait adorer là, sur ce mont-là, sur cette montagne. Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est à Jérusalem ? Est-ce que c'est à Saint-Nazaire ? Oh, vous vous rendez compte ? Quel prestige j'aurais de vous servir dans un temple ? Vous vous rendez compte ? Enfin, n'y croyez pas trop, hein, parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Et le mot est lâché par Jésus. Voici le temple, et il le désigne, Jésus, à la Samaritaine. Il dira, mais c'est le temple en esprit, en vérité. Alors, c'est quoi la vérité ? Et c'est quoi le monde de l'esprit ? Mais nous avons notre religion depuis les temps ancestraux. Nous avons nos pères, nos traditions, nos rituels. Nous avons nos sacrifices. Nous avons nos sacerdoces, notre sacerdoce. Nous avons des prêtres, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en esprit, en vérité ? Jésus a dit ceci. Je tiens quand même à le relire simplement. Il a dit cette parole au début de l'évangile de Jean, au chapitre 2 et au verset 18 à 22. C'est pour mémoire, hein. Les Juifs, prenant la parole, vous pouvez écouter, hein, lui dire « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Parce qu'on va voir pourquoi Jésus va susciter cette question. Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Vous suivez, hein, vous savez de quoi, de contexte, hein, naturellement, parce qu'il avait dit « Je détruirai le temple. »« Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, c'était du temps d'Hérode. Hein. Et en 3 jours, toi tu le relèveras ?» Il va être détruit en 3 jours. Mais il parlait du temple de son corps. Ah, voilà. On n'est plus dans la toile, on n'est plus dans la pierre, on n'est plus sur un rocher. Il est question du corps. C'est intéressant. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, Jésus n'est pas ressuscité en esprit, hein, seulement, enfin, avec d'une manière éthérée, il est ressuscité dans un corps glorifié. Il est ressuscité donc des morts. Ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture que la parole est à la parole que Jésus leur avait dite. Si vous ne croyez pas ce matin, c'est votre affaire. Mais croyez au moins à ce que Jésus nous dit. Hein. D'accord ? On va aller plus loin. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Ne vous attendez pas à avoir un miracle pour une révélation. La parole de Dieu est suffisante. D'accord ? Il y a des chrétiens et des croyants qui sont toujours avec la sensiblerie ou la sensibilité à fleur de peau en disant « si je crois, si j'entends, si je vois, eh bien moi je vais être convaincu ». Eh bien, mes frères et sœurs, permettez-moi tout respect de votre personne, mais vous vous trompez. Hein. En esprit, en vérité, c'est pas ça du tout. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. Alors nous allons reprendre les traces. Je vous les ai données depuis les temps immémoriaux. Nous allons reprendre finalement la filière et ça repart à un moment donné à David. Le lien est fait. D'ailleurs, quand vous regardez la généalogie de Jésus, David a une place prépondérante parce que c'est lui, même par privilège peut-être à tous les anciens patriarches, c'est lui qui va finalement eh bien avoir et donner la traçabilité finalement de ce plan de Dieu qui passe et qui aboutit à Jésus-Christ et qui aboutit à notre salut aussi. Hein. Et ça, c'est important. Je dirais tout de suite, c'est que chez David, tout est grand. Alors, attendez-vous à ce que je vous dise des choses qui vont être choquantes. Tout est grand chez David. Le génie de David est grand, quand on voit ce qu'il a pu écrire et ses réflexions. Le crime est grand chez David. J'espère que je vous choque pas, hein, parce que il a vraiment mis la main. Hein. Je peux vous dire que ça n'a pas été à moitié. Hein. Je ne veux pas rappeler son histoire, parce que bon, c'était un meurtre, un mensonge, dissimulation et un vol. Bon, tout est grand. La repentance de David a été une grande repentance. Un cœur qui était droit, qui n'a pas cherché de faux fuyants quand le prophète Nathan est venu. La destinée de David est magnifique et elle nous parle à nous. Elle nous parle parce que nous sommes bénéficiaires et ça passait par David naturellement. Dieu lui a réservé une destinée. Et il le savait parce que Dieu lui a dit. Il savait qu'il aurait une descendance, et etc., etc. Qu'il y aurait un de ses descendants qui monterait sur le trône, mais pas le trône matériel, le trône du ciel, le trône spirituel. C'est un homme de cœur, David, et c'est un homme de Dieu malgré tout ce qu'il a fait. Parce que Dieu est un Dieu de pardon et de miséricorde. Et il ne renie pas son appel et ses dons. On est d'accord? Maintenant, on peut renier ses dons. Hein. Dieu peut nous donner un appel et des dons, mais on peut les piétiner. On l'a connu, hein, malheureusement. De piétiner les dons de Dieu, c'est quelque chose. Par orgueil. Son amour pour Dieu le pousse un jour, David, je parle, à vouloir bâtir un temple à l'Éternel. Il aime Dieu. Et il se dit, mais Seigneur, je peux pas te laisser dans une tente. Je vais te faire un. Quand il est arrivé au summum ou au sommet de sa puissance et de sa royauté. Et à ce moment-là, il dit, mais Seigneur, je peux pas te laisser dans une tente. Ça, c'était bien pour le désert. C'était bien dans les temps de troubles, troublés qu'était le livre des juges, etc., etc. C'était le Moyen-Âge d'Israël. Mais maintenant que nous sommes à Jérusalem, que nous avons le pays, que j'ai un empire sous mes pieds, parce que c'était ça, David, hein. Même si c'était un petit empire, c'était un empire qui, finalement, on en parle encore aujourd'hui, hein, de David et son empire, hein. Alors, il a eu à cœur de bâtir un temple à l'Éternel. Et Dieu va le lui refuser. Il va dire, non, pas toi, parce que tu n'es pas un homme de paix, tu es un homme de guerre. Un homme où tu as fait couler le sang, etc. Et Dieu, mais c'est Dieu qui choisit. Et pourtant, ça a dû être une grande déception pour David. Moi, je veux faire plaisir à Dieu. Et Dieu ne veut pas que je lui fasse plaisir. C'est comme ça. On a des surprises dans la vie, quelquefois, même dans la vie spirituelle, hein. Ouh là là. On se dit, ben, j'y mets tout mon cœur, mais le Seigneur nous dit, non. C'est pas comme ça, hein. Moi j'ai mes raisons et vous allez voir pourquoi il avait ses raisons. Naturellement. Dieu va lui refuser, mais va lui annoncer, toi tu veux me construire un temple, mais moi je vais te donner une maison. Vous comprenez la différence? La maison de David, c'est pas le palais de la forêt du Liban, hein. Une maison, c'est une maison avec un caractère moral et spirituel. On dit bien la maison de ceci, la maison de cela, c'est pas forcément de la pierre. Mais c'est une filière, c'est une trace, c'est une descendance. Donc, il veut faire un temple, et Dieu lui dit, mais pas question, moi, je vais te créer une maison, la maison de David. C'est-à-dire qu'il faut le comprendre de cette manière, c'est que Dieu va créer une race. C'est pas seulement la race des Hébreux, la race juive, mais une race spirituelle, d'hommes, de femmes, qui vont faire une expérience spirituelle. C'est celle de la foi par rapport à la loi, par rapport à l'Ancien Testament. Et là, maintenant, eh bien, il faut attendre l'avènement de Jésus et du Nouveau Testament pour comprendre qu'il y a quelque chose qui est autre chose que des choses matérielles. Naturellement, une race, la foi. Laquelle foi et laquelle race va découvrir qu'il y a un temple d'une autre nature? D'une autre nature, non de pierre, non de toile, c'est un temple vivant, c'est le temple de la vie par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Ça va, vous suivez? Oui? Oh, quel enthousiasme! C'est vrai? Le Seigneur m'a donné quand même encore un peu de souffle. Mais c'est votre faute. Parce que vous avez prié pour moi. Et là, je peux vous dire que la pilule, elle est... Ah oui, merci Seigneur, hein. Enfin, je veux pas, finalement, parce que bon, il y a des hauts et des bas, mais une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur, finalement, eh bien, nous parle encore ce matin, me semble-t-il. Et il nous donne les forces nécessaires. Et ça, c'est pas moi. Grâce à vos prières et grâce à la miséricorde de mon Dieu, on peut se tenir debout, hein. Enfin, c'est pour ça que je suis assis, d'ailleurs. Excusez-moi, mais vous le voyez pas là pour l'instant. Vous le voyez pas, mais en tous les cas, ni de pierre ni de toile, mais un temple vivant, un temple de vie qui ne pourra jamais être détruit. C'est pour ça que quand Jésus a dit « Mais je détruirai ce temple et en 3 jours je le rebâtirai », vous avez compris ? Anastasia, la résurrection, quel temple ! Ah, quel temple ! Jamais être détruit. C'est pour vous dire que les Juifs à Jérusalem qui s'en prenaient à Jésus, qui lui faisaient toutes les misères possibles et inimaginables, c'est qu'avec leur croyance, avec leur foi, avec leur loi, avec tout ce qu'ils connaissaient, ils en connaissaient jusqu'au bout des ongles finalement, eh bien, de l'Ancien Testament, eh bien, ils étaient, comme on dit aujourd'hui, à côté de la... D'accord, voilà. Ils étaient complètement à côté. Et Jésus leur dit, il leur dit ces paroles, et ils sont scandalisés. Hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être à travers ce genre de propos qu'ils vont mettre Jésus à la croix, pour voir et vérifier que ce qu'il a dit, eh bien, ça va se réaliser. Mais là, ils n'ont pas été surpris. Enfin, quelle surprise ils ont eu plutôt, quand ils ont crucifié Jésus, 3 jours après, il était ressuscité. Et ils ont maquillé la chose pour faire passer finalement, eh bien, comme si ça n'était pas arrivé, comme si c'était un mensonge de la part de Dieu. Ah, l'homme est difficile, hein, je peux vous le dire. Jamais détruit, la personne de Christ, le Messie, un peuple nouveau qui par la foi, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et le plan de Dieu, un peuple nouveau parce qu'il est né de nouveau et qui va former ce que nous sommes aujourd'hui, l'Église. Ouais, qui va former l'Église. Écoutez bien, vous voulez avoir peut-être quelques vérifications, quelques confirmations, eh bien, je lis dans 1 Pierre, chapitre 2 et verset 4, 4 à 5 et 9, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, c'est pour nous, hein, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » C'est pas une tente d'assignation, c'est pas le temple de Jérusalem. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce. C'est pas celui des lévites et puis des sacrificateurs. Afin d'offrir des victimes spirituelles. C'est plus des boucs, c'est plus des pigeons, c'est plus ceci et cela, mais des victimes spirituelles qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et le verset 9 nous dit ceci, tout simplement. Vous, vous êtes une race élue, sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Et frères et sœurs, est-ce que nous mesurons? Est-ce que nous pouvons comprendre le privilège qui est le nôtre aujourd'hui? Ça commençait dans la plus haute antiquité avec un rocher où les premiers soupçons d'une aspiration à se tourner vers Dieu, soit pour le prier, pour l'adorer. Et aujourd'hui, depuis 2000 ans, depuis que Jésus est venu, c'est pas de la pierre, c'est pas de la toile. C'est pas tout ce que vous voudrez, tout ce que vous pouvez fabriquer. Vous pouvez mettre de l'or, on peut y mettre de l'argent, on peut y mettre des statues d'une grande splendeur et d'un grand art. Mais c'est pas ça. Ça n'a plus rien à voir avec ça. Et une grande partie du monde, chrétien et non chrétien, croyant, non chrétien, est encore embourbé dans cette vieille histoire qui est la plus vieille histoire du monde. La vérité et l'erreur. Tout en croyant dans l'erreur, qu'ils sont dans la vérité. Oui. Et nous pouvons dire que ce peuple, qu'est l'Église, le peuple élu, ce que nous sommes, chacun d'entre nous, ou chacun d'entre nous, nous deviendrons, à notre tour, nous sommes, et bien précisément le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Alors pour cela, eh bien, on va aller voir dans Corinthiens, on va tourner quelques pages. Vous permettrez hein, que je lise des textes, parce que moi, je voudrais étayer ma prédication comme je le fais à chaque fois, non pas avec des idées que le pasteur pourrait avoir, hein, toutes sortes d'élucubrations intellectuelles et cérébrales, mais je m'appuie sur la parole de Dieu. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, il est dit ceci, on le retrouve, et c'est pour ça qu'il y a cette interrogation et cette question qui est posée, si nous l'avions oublié, au risque de l'avoir oublié, il est dit, ne savez-vous pas, est-ce que vous le savez, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes le temple de Dieu, mes frères, hein? Mes frères et sœurs, oh, j'ai oublié. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Et si quelqu'un détruit ce temple, c'est vraiment la plus grande misère qui puisse arriver, de nous détruire les uns les autres ou de détruire finalement eh bien, la communion fraternelle. Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes saints à cause de la présence du Saint-Esprit et du Seigneur dans notre cœur. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, alors on va tourner encore une page. C'est presque une étude biblique hein, ce que je suis en train de faire. Mais j'ai eu le temps ces derniers temps. Hein. Ça m'a occupé. Mais favorablement, me semble-t-il. Enfin, moi, je me suis fait du bien. Chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps C'est toujours la même question, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Merci Seigneur. Car nous sommes le temple de Dieu vivant, du Dieu vivant, et Jésus dira cette parole, où Dieu nous le dit, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament pour préparer le Nouveau Testament, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Vous vous rendez compte un peu? Si les gens savaient ça et s'ils croyaient, mais l'Église serait trop petite, il y aurait 25 églises à Saint-Nazaire. Mais ils n'y croient pas, ils ne veulent pas y croire. Ils préfèrent rester encore avec leurs autels de pierre, ils préfèrent encore rester avec toutes leurs traditions, avec leur ritualisme, avec leur sacerdoce. L'esprit, c'est la liberté, mes frères et sœurs, nous sommes libres. Alors que les autres, ceux qui sont, enfin je parle du christianisme apostat, hein, mais ils sont là sous des lois, des contraintes, c'est encore l'Ancien Testament, et révisé avec des commandements d'hommes et des commandements religieux, hein, la culpabilité, pas le salut par les œuvres, etc., vous en faites pas assez, etc., etc. Mais ça, c'est pas la liberté, c'est la prison, c'est la captivité. On sait par où on est passé, on était avant, finalement, dans ce monde-là. Hein. Maison de David, et nous sommes les héritiers finalement de David, même s'ils n'ont pas juif. Hein. Mais David a donné tout un suivi, une traçabilité pour arriver à Jésus. Et Jésus, ça a été véritablement l'universalité du salut. Juifs et non-juifs, les païens, etc. Mais construit en pierre vivante pour célébrer un culte en esprit et en vérité. Je reviens à la Samaritaine. Elle pose la question, mais faut-il adorer sur cette montagne ? Comme nos pères nous l'ont enseigné, parce que la religion, c'est la tradition. C'est, ça passe d'une génération à une autre, et puis c'est quelque chose que l'on considère comme sacrilège, si finalement on en sort. Hein. Oui. On sait qu'il y a eu du sang coulé, hein, à cause de cette, voilà. Hein. Mais toujours est-il, elle dira, où est-ce qu'il faut aller à Jérusalem? Et Jésus dira, mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, maintenant, c'est une autre dimension. Ceux qui sont les vrais adorateurs de Dieu, c'est en esprit, en vérité. Pas besoin d'un décor, pas besoin d'une sensation, pas besoin de musique, pas besoin de je ne sais quoi. Ce qui nourrit les sens à la fois, l'oreille, les yeux, le toucher, l'odorat. Vous avez remarqué que dans les grands temples païens, y compris ceux qui sont païens, mais qui se réclament de l'étiquette de l'estampille chrétienne, il y a toujours ces fonctions des sens. Voir, il y a des belles choses. Entendre, parce qu'il y a des beaux discours qui sont humanistes ou autre chose. Hein, du voilà. Et puis sentir. Vous avez la petite. Ça fait éternuer, ça, non? Et puis bien d'autres choses. Hein. Le toucher, le sentir, c'est le monde des sens. Mais Jésus nous parle d'esprit et la vérité, selon ce que la Bible nous enseigne. Parce que la Bible, c'est la vérité. La parole, l'évangile, c'est la vérité. Aujourd'hui, le véritable sanctuaire, ce n'est pas une cathédrale qui écrase les hommes. Ah, c'est beau, magnifique. Mais. J'y trouve le noir, j'y trouve le vide, j'y trouve qu'il n'y a pas de sens. Est-ce que c'est une cathédrale qui éloigne de Dieu? Oh oui, parce qu'il y a des gens qui disent, ne me parlez pas hein, de la religion, ça c'est sûr. Mais c'est la maison du Père où chaque enfant de Dieu se sent bien. Est-ce que vous vous sentez bien dans l'église, mes frères et sœurs? Mais l'église matérielle, hein, je parle. Ouais. Ouais, on se sent bien là où il y a des frères et des sœurs, où il y a l'amour, où il y a la paix. Où il y a l'unité entre nous. Hein. C'est notre maison. Hein. Pourquoi nous y sommes restés le jour où nous l'avons entendu? C'est parce que on a compris qu'on était arrivé au port désiré. C'est là, c'est bien. C'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure, hein, ne touchez pas l'église de Dieu. Hein. Et malheur aux diviseurs, malheur aux orgueilleux, à tous ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres et qui vont tout réformer et tout ça. Hein. Il est dit, hein, Dieu vous détruira. Hein. Parce que ça ne plaisante pas, ça. Ça ne plaisante pas. Bon, certains l'ont oublié. Hein. Quand Jésus a dit, c'était pas un temple, mais il disait, il parlait de sa personne, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez pourquoi vous pouvez venir? Parce que je suis doux et humble de cœur. Ce n'est pas un dictat religieux, ce n'est pas des commandements d'hommes qui viennent d'ici ou d'ailleurs, où là on oblige les gens à croire, à briser ou à vriller leur conscience. Non. venez à moi. Mes pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Tout ça, ce sont de fragiles constructions sorties de l'imagination religieuse des hommes et dont les serviteurs de ces temples, oui, de ces temples, de ces faux temples, de cette illusion finalement de temple, ont toujours été ceux qui ont fait obstacle à l'œuvre spirituelle de Dieu. On le voit. Un exemple. Qui c'est qui a donné les 30 pièces à Judas pour livrer Jésus? C'était bien les prêtres du temple de Jérusalem. Ils se sont toujours opposés. Les vrais prophètes dans l'ancienne alliance ont été coupés en morceaux, ils ont été persécutés. Et tout ça, qui c'est qui faisait ça? Eh bien, c'était les autorités religieuses. Qui c'est qui a crucifié Jésus? Le peuple qui a hurlé. Mais c'est quand même les autorités, c'est tous ces sacrificateurs et tout ça. Donc on s'aperçoit que ces serviteurs de ces temples, eh bien, ont été véritablement, eh bien, en opposition avec la vérité, l'œuvre spirituelle. La persécution des vrais chrétiens hier comme aujourd'hui, ce sont des débats religieux. Il y a derrière, finalement, eh bien, là, une prétention à dire s'il n'y a que nous qui avons la vérité et nous voulons convertir le monde entier. On le voit encore aujourd'hui, hein. Temple humain ou temple divin? La question, elle est là, hein. Et nous allons visiter ou revisiter un texte de Jérémie. Dans Jérémie, au chapitre 31 et verset 33, et là, c'est là où véritablement la construction commence, hein. 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Il y a eu l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance maintenant. Et qu'est-ce qu'il est dit? Quel est le contenu de cette nouvelle alliance? Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi dans, au-dedans d'eux. Ma loi, pour vous, ce n'est plus une loi, pour nous, c'est une foi. Vraiment une foi en esprit, en vérité. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Ça sera pas dans leurs mains, dans leurs pieds, dans leur imagination pour construire des temples, pour construire des cathédrales ou pour construire autre chose. Parce qu'il faut de l'imagination et il faut aussi, eh bien, là, le goût de l'art. Mais c'est pas ça. C'est pas les mains, c'est pas les pieds, c'est pas la tête. C'est le cœur. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Merci, Jérémie, de nous avoir donné cette parole. Parce que c'est déjà le pré-évangile, c'est déjà la préparation pour les Juifs. Et Dieu soit béni qu'il y ait des Juifs messianiques. Mais nous ne sommes pas Juifs. Mais c'était pour nous aussi, hein. Ça, c'est clair. Le prophète Jérémie va dénoncer la première alliance et sa violation. Et il prédit en même temps la venue du Saint-Esprit qui va agir dans les cœurs. Ce ne sera plus une vie extérieure, une vie d'apparence, une vie religieuse, mais une vie profonde et intérieure. Et Jérémie proclame déjà la nouvelle naissance et nous amène dans Jean, chapitre 3, à l'histoire de Nicodème. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Comment se fait-il? Est-ce que je peux naître maintenant, moi qui suis âgé? Non, tu ne comprends rien, mon pauvre Nicodème. Mais crois ce que je te dis, parce que l'esprit, il est comme le vent. Il n'est pas matérialisé à travers un temple, à travers de la pierre, de la toile et tout ce que vous voudrez. Le Saint-Esprit, il est partout. Mais par contre, il cherche une demeure dans le cœur de l'homme et il va remplir son cœur, il va remplir sa vie complètement et il va faire de son corps le temple. C'est curieux tout cela, hein? Il proclame une nouvelle naissance. Ce que nous pourrions dire, il proclame une renaissance de l'humanité, pour ceux qui veulent, naturellement, hein. Une renaissance et un contact authentique avec Dieu, parce que Dieu est esprit et vérité. Il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit, en vérité. Et non pas d'une manière matérielle. C'est vraiment rabaisser l'image que nous pouvons avoir de Dieu. Jusqu'à faire un veau d'or. Mais quel outrage! Quelle insulte! Même dans les statues où on représente Dieu le Père ou Jésus-Christ, moi je dis, on se croirait à la réforme, hein, au XVIe siècle, hein, je vais me faire couper la tête un de ces jours, mais je dis souvent, mais bon, mais toujours est-il que c'est à la limite, et les gens sont sincères, hein, quand ils vont faire une prière. Mais c'est un outrage que l'on fait à Dieu, parce que c'est un esprit en vérité, on n'a pas besoin de représentation. D'ailleurs, les 10 commandements, vous connaissez premier. Hein. Alors, ce n'est plus extérieur, ce n'est plus l'apparence, mais c'est authentique. Il y a deux christianismes en marche, pour ne parler que de ce que nous connaissons dans nos pays occidentaux, deux christianismes en marche, et qui marchent en parallèle. Je pourrais dire qu'il y a la lignée de Caïn, c'est un croyant Caïn, et il a quand même fait un culte à Dieu, non ? Enfin, si on peut dire ça comme ça, hein, en passant. Et il y avait Abel, donc deux marches. Il y a les œuvres méritoires d'un côté, il y a le culte cérémoniel, les traditions, les autels de marbre et les trésors faits en argent et en or, il y a les sacerdoces, il y a les pompes, il y a le développement de la sensualité religieuse, des sens et des émotions charnelles. Ah, eh bien écoutez, c'est quand même intéressant, on va remettre ça un petit peu dans le contexte. Le chapitre 22, dans le deuxième texte que nous avons lu, c'était dans Actes chapitre 17, j'y reviens, et il est dit ceci. Donc, je trouve, dira Paul aux Athéniens, que vous êtes extrêmement religieux. Ça, c'est ce qu'il dit. Verset 23, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un dieu où il est écrit, et cette inscription, un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. L'homme religieux, engoncé dans sa religion, enchaîné dans sa religion, doit passer à une autre dimension à un moment donné. C'est ce qui nous est arrivé un jour et c'est comme ça que nous sommes devenus chrétiens, non pas de nom, mais chrétiens de vie, de cœur. Et nous nous sommes attachés à la personne que Dieu a donnée, la personne de Jésus-Christ, qui est mort pour moi, qui est ressuscité et qui me donne la promesse de la vie éternelle aujourd'hui. Verset 29 dira, ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire. Vous voyez, il y a des affirmations, des questions négatives qui sont données. Hein. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre précieuse, à la pierre tout simplement sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant qu'il y a une autre disposition. La grâce est offerte à notre foi, un cadeau de Dieu. J'ai pas besoin de mériter, j'ai pas besoin de m'approcher de Dieu. Même quand je prends la Sainte Seine, j'ai pas besoin de dire, bien écoute, hein, Seigneur, tu peux me donner ceci et cela parce que je le mérite. Ou quand je prie, mais on ne mérite rien. Tout est grâce, mes frères et sœurs. Mais on a été tournés dans cette conception. Hein. Offerte à notre foi, et c'est gravé dans nos cœurs. On a du mal à se défaire de nos traditions religieuses. Et même chez les évangéliques, eh bien moi je le constate, on a nos traditions. Et faisons attention que nos traditions, un jour, elles ne viennent complètement renverser la vérité que nous avons reçue. C'était le problème des Galates. Mais vous avez commencé par la foi, par l'esprit, et vous finissez par la chair. Oui, gravé dans nos cœurs, la vie spirituelle dont la sève vient d'en haut. Vous connaissez la belle parabole de Jésus. Jean chapitre 15, je suis le sarment, enfin, alors je me souviens plus, mais toujours est-il, mon père est le cèpe et vous êtes les sarments. Je remets ça dans le désordre, hein, mais vous mettez tout ça en place. Hein? Et il est question de sève, il est question d'émondage. Il est question d'émondage, lorsqu'on se convertit, il y a un émondage. Et toute notre vie, il y aura un émondage. Et tout ça, pourquoi ? Pour que nous portions encore beaucoup de fruits. Et c'est ainsi que le monde entier verra que vous êtes mes disciples. Voilà, si vous aimez les uns les autres, tout ça c'est dans le même contexte. Le contact de la vie a été rétabli, mes frères et sœurs. Quand on est de nouveau, la vie nouvelle. Et nos existences sont transformées. Prenons garde de ne pas avoir l'apparence d'un chrétien, même évangélique, mais il faut que notre vie soit transformée à l'intérieur. Ah oui, dans notre langage, dans toutes sortes de petites choses, dans toutes sortes de choses qui appartiennent à notre vie d'avant, et puis, sans cette greffe, il n'y aura pas d'avenir, ni de durée, mes frères. C'est pas possible. On est promis à la vie éternelle, hein. Et là, pour la durée, je peux vous dire que ça va durer longtemps. Hein. Eh oui, mais ça, c'est toute la perspective que Dieu a pour nous. Il n'y a pas d'avenir ni de durée. Jésus est le cèpe et moi je suis le sarment, et on comprend. Et je termine. Cela fait penser à des enfants qui coupent des branchages ou des branches et les plantent dans du sable. On peut s'imaginer, on l'a tous fait à un moment donné, dans un bois, dans une petite clairière, on s'est amusé à faire des plantations, comprenez ? Alors on a coupé avec une, un petit couteau, le pinel par exemple, et puis on a dit, tiens, ben on va planter, on va voir, hein, c'est tout simplement pour s'amuser, c'est un jeu. Hein. Mais il y a la pluie, il y a le soleil, et le temps qui fait œuvre de mort sur ces rameaux. Et pourquoi il y a une œuvre de mort alors que la pluie s'est fait pour donner la vie? Le soleil, il est là pour réchauffer la terre qui va eh bien produire. Et également, eh bien, le temps aussi fait son œuvre. Et ça ne marchera pas, mes frères et sœurs, parce qu'il n'y aura pas de racines. Vous avez coupé la branche, vous l'avez mis dans du sable, avec ces trois éléments que j'ai cités. S'il n'y a pas de racines, eh bien, ça ne marchera pas. Et l'eau va tout simplement les pourrir, à un moment donné. Le soleil va les brûler, et le temps va les durcir. Donc, il n'y aura rien du tout. Le constat dans notre vie spirituelle, ni racines, ni sève, eh bien, on va se faner. On aura peut-être une bonne réputation religieuse, on aura peut-être les apparences d'une consécration, mais s'il n'y a pas de racines, les racines sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le cep, Dieu est le cep, et moi je suis un simple rameau, une simple branche tout simplement. Et en l'absence de vie véritable, Jésus le dira dans l'évangile de Matthieu, il dira, mais tout ce que le Père n'a pas planté, toute plante que le Père n'a pas plantée, eh bien, périra, et c'est tout à fait normal. La conclusion, c'est que Dieu nous amène à une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, on l'a définie à travers cette traçabilité, à travers un petit peu cette perspective, ce panorama que nous avons donné à travers la lecture, les lectures. Mais la vie nouvelle passe nécessairement par la mort pour atteindre la résurrection. Et mourir à nous-mêmes, c'est ça la question, hein, c'est pas la mort physique que je parle, mais la mort à nous-mêmes, c'est ce qui nous permet de ressusciter. C'est ce qui nous permettra de ressusciter, donc la nouvelle naissance. Et cette mort à nous-mêmes, c'est tous les jours. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, enfin, voilà. Paul dira, dans son épître monumental, qui est l'épître aux Romains au chapitre 1er, ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Et il y a toute la suite aussi, hein. Pour nous montrer la méchanceté, la perversité, l'ignorance, hein, la confusion, où l'homme par lui-même se faisant des dieux, se faisant un dieu, se croyant lui-même dieu, on sait à quoi ça aboutit, hein, à la déchéance la plus complète. Mais il avait raison, ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées et mes voix, nous dit Dieu, sont élevés au-dessus de vos voix et de vos pensées. Alors, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je voudrais pas radicaliser, mais je pense qu'il faut absolument que l'Église, je pense qu'il y a déjà, il y a déjà, mais je pense qu'il faut que l'Église aille plus loin dans la vie spirituelle. Oui. Et il m'appartient de vous le dire. Il m'appartient de vous le rappeler. On ne va pas se prétendre plus que les autres. Mais une chose qui est certaine, c'est quand on voit tout le gâchis, tout le gaspillage qu'il y a autour de nous-mêmes, dans notre monde, que l'on appelle biblique, évangélique et tout cela, je me dis, hein, gardons le flambeau allumé. Hein, et la flamme, c'est l'esprit. Hein. Et si on perd ça, on perd tout. On sera de bons religieux, on viendra, etc., etc. Mais c'est pas ça, hein. C'est une vie profonde. C'est une branche qui a été coupée. Mais elle a été hantée, elle a été, greffée. Sur là où il y a la vie, il y a la sève. Et la sève de la vie, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est la liberté, c'est le bonheur d'être et d'appartenir à Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Nous te demandons de nous bénir, Seigneur, à travers ta parole. Et de laisser, Seigneur, en effet, nos cœurs s'ouvrir. On peut toujours prétendre que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que nous sommes chrétiens, c'est pas ça. Le plus important, Seigneur, c'est véritablement qu'il y ait ce souffle de l'Esprit en nous et que nous le maintenions allumé. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous croyons que cette Église va vivre. Cette Église, elle vivra. Pour autant que nous garderons, en effet, eh bien, la ligne. Que nous savons, que nous sachions, que nous nous souvions d'où nous venons et où l'on va. Et Seigneur, moi je veux te dire encore une fois de plus, que le chef, que le roi, que le Seigneur de cette Église, c'est Jésus-Christ. C'est pas le pasteur, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe. Non, c'est Jésus-Christ. Et nous te bénissons et nous te remercions. Dans le nom de Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.